Il y a dans ce passage d'évangile une phrase étonnante et même assez dérangeante, dont on ne rend pas compte la traduction que l'on a entendue, qu'on appelle la traduction liturgique. À ce moment où, ayant guéri le lépreux, avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en disant « Attention !» Or, le texte ne dit pas exactement « avec fermeté ». Le texte porte littéralement « L'ayant menacé, Jésus le jeta dehors. » Dans la traduction latine, dans la Vulgate, il y a un mot, c'est un très joli mot de la langue française, il y a le mot « comminatoire ». De façon comminatoire, de façon menaçante. Jésus l'a menacé. La question, ce n'est pas de quoi, mais pourquoi. Parfois, aux adolescents que je rencontre, qui doutent de bien des choses, du monde invisible, de l'amour de Dieu, du monde, je leur propose un jeu. Je leur dis, je mets devant toi deux grands-mères. La première, tu ne la connais pas. C'est une vraie grand-mère, elle est quand même très ridée, un peu défraîchie. On va dire, pas comme le lépreux de l'évangile, mais enfin, pas très très soignée. Berk. La deuxième, c'est ta grand-mère. Tu lui sautes au cou et tu la couvres de baisers. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as vu chez l'une que tu ne vois pas chez l'autre ? Qu'est-ce que Jésus a vu chez ce lépreux que personne ne voulait voir pour qu'il fût ainsi mis à l'écart, ostracisé, rejeté ? Qu'est-ce que Jésus a vu ? Qu'est-ce que Jésus voit ? Et qu'est-ce qu'un cœur pur ? Un cœur pur est capable de voir en toute personne dont l'apparence nous dérange ou nous inquiète. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu, heureux les cœurs purs car ils verront Dieu dans le plus misérable de nos frères. Peut-être est-ce pour cela que Jésus a menacé cet homme, pour qu'il n'oublie pas qu'il avait été pestiféré, exclu, pour que les malades restent ses frères, pour qu'il ne passe pas de l'autre côté, justement, du côté de ceux qui l'avaient si maltraité. Les malades sont nos frères. Le texte dit que, après avoir touché le lépreux, Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais rester à l'écart. Comme il avait touché le malade, qu'il avait raconté à tout le monde. Eh bien, c'est Jésus qui, à son tour, était comme mis en quarantaine. Mais il y avait une attirance trop forte, de toutes parts, on venait à lui. Il est normal, mes amis, que nous ayons une certaine répulsion pour tout ce qui nous fait peur. Pas uniquement des personnes, des étrangers, des personnes malades. Ça commence avec des petites bestioles. Ah, des souris! Des araignées, des serpents. On ne les entend pas venir. Tout ce qui arrive subrepticement. Et c'est pourquoi la première lecture raconte, vous rappelle cette obligation faite aux lépreux de se signaler impur, impur, de prévenir de leur venue. Au Moyen-Âge, ils agitaient les cloches et ding, 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 pour qu'on sache qu'ils étaient là. Peut-être. Est-ce pour cela que nous avons peur du silence, de ce qui peut arriver sans qu'on le voie arriver, de même du mal qui peut surgir? Quand le peuple d'Israël, après sa sortie d'Égypte, s'est cru abandonné, il a cru qu'il était abandonné parce que Moïse était allé sur la montagne de Dieu et il tardait à redescendre. Eh bien, le peuple s'est fabriqué un veau d'or, mais surtout il a déclenché un tumulte, un vacarme de tous les diables. Moïse, qui redescendait avec Josué, a entendu ça de très loin. Josué a dit, il y a un bruit de bataille. Non, dit Moïse, ce n'est pas un bruit de bataille, ce n'est pas des chants ni de victoire ni de défaite, Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit énorme, ce vacarme? Il était censé rassurer le peuple, bien plus probablement que leur idole, les empêcher de gamberger, les empêcher de se retrouver face à eux-mêmes. Pour entrer dans l'invisible, il faut commencer par apprivoiser le silence. Pour aller visiter un malade, il faut pouvoir entrer dans le calme et le silence, alors même que parfois à l'intérieur de nous, sous nos crânes, tempête et chahut, et si ça m'arrivait à moi? Et si moi aussi? J'ai une amie qui ne voulait pas aller voir sa maman qui était malade, parce qu'elle craignait le déferlement d'émotions que ça pouvait susciter en elle. Et le secours lui est venu de son fils, grand, 25 ans, qui à un moment il a dit « ça suffit, maman, moi je viens plus te voir tant que tu vas pas voir ta mère ». D'habitude, normalement c'est dans l'autre sens. Ce sont les parents qui apprennent aux enfants à ne pas avoir peur de ceux qui sont malades, de ceux qui ont un handicap, de ceux justement qui ont besoin d'aide. Les personnes malades ont trois défauts. Elles nous inquiètent parce qu'elles nous rappellent ce qui pourrait ou est susceptible de nous arriver. On aimerait bien faire quelque chose pour elles, mais on éprouve nos limites, on ne sait pas toujours quoi. Et puis elles nous ralentissent. Elles nous ralentissent parce que la personne malade, la personne très âgée, la personne handicapée prend du temps. Et j'en parle d'autant plus librement, peut-être que c'est pour ça que nous sommes si nombreux ce matin, c'est que les messes ici à Notre-Dame de Compassion ne durent pas trop longtemps. La durée est calibrée, vous êtes sûr de repartir avant midi. Pourquoi? Parce que je sais vos rythmes de vie. Que nous soyons parisiens, nœuds ou pas, nous sommes assez pressés, avec plein d'activités à remplir, assez jaloux de notre temps et surtout très promptes à exclure de nos communautés tous ceux qui peuvent nous ralentir. Le prêtre le plus saint que je connaisse, au séminaire avec nous, c'était le plus lent. Il n'était pas très brillant intellectuellement, il comprenait lentement, il mangeait très lentement. En communauté, c'est dur. Rétrospectivement, j'ai pensé aux moqueries qu'avait enduré saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, ses coreligionnaires l'avaient surnommé le bœuf muet de Sicile. Le bœuf muet parce qu'il était assez massif, muet parce qu'il parlait peu, il était taciturne, et puis surtout il se moquait de sa lenteur. Et un de leurs camarades, pas n'importe lequel parce qu'il est devenu saint Albert le Grand, les a prévenus, ce bœuf mugira si fort que toute la terre l'entendra. Le plus grand théologien de l'histoire de l'Église. Chesterton, qui a écrit un livre qui s'intitule justement « Saint Thomas ou le bœuf muet », raconte qu'on a demandé un jour à saint Thomas d'Aquin de quoi il était le plus reconnaissant à Dieu. Et saint Thomas d'Aquin a répondu « J'ai toujours compris chaque page que j'ai lue. » De quoi êtes-vous le plus reconnaissant à Dieu ? J'ai toujours compris chaque page que j'ai lue. On peut dire de lui qu'il n'est jamais resté à la surface des choses. C'est aussi pour cela que Jésus a menacé le lépreux guéri. Pour qu'il n'en reste pas une guérison physique. Pour que sa vie ne se limite pas à la santé du corps. Il lui ordonne de faire ce que prescrit la loi, d'aller voir le prêtre, de donner ce que la loi prévoit. Pour que son obéissance à la loi soit un témoignage, autant que sa guérison, son obéissance. La loi, surtout pour nous Français, elle a le même effet que les personnes malades. Ça nous rappelle constamment nos limites et ça nous ralentit. On peut penser de l'Ancien Testament qu'il accorde plus d'importance au respect de la loi qu'aux soins des personnes malades. On aurait tort de penser que le christianisme aurait pris ou prendrait le contre-pied, ni même qu'on pourrait opposer les deux. Dans un cas comme dans l'autre, c'est une question de temps, surtout de rythme. L'évangile de cette guérison insiste sur le caractère immédiat, à l'instant même, pour marquer d'abord la rupture avec la maladie. La maladie, c'est un temps qui est long, qui est incertain, qui est interminable. Mais c'est aussi pour signaler ce moment de la vie, la rencontre avec le Christ, ce moment où tout peut basculer, à condition de ne pas rester à la surface des choses. Or, le lépreux guéri, il continue pareil. Avancer, avant il criait « Impur, impur !» Maintenant il crie « Guéri, guéri !» Mais si le Christ l'a guéri, lui a permis de réintégrer la communauté, c'est pour qu'il s'y ancre en profondeur, pas pour qu'il continue de la secouer, de la malmener. À quoi sert-il de connaître Dieu ? À quoi sert-il de rencontrer Jésus si c'est pour rester à la surface des choses ?